10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour les informés. Vous le savez, commenter, analyser et décrypter surtout l'actualité. Nous sommes ensemble avec des débatteurs influenceurs qui sont autour du plateau. Peut-on dire que l'heure est à l'inquiétude? Peut-on dire que l'heure est alarmante? Peut-on dire que l'heure tout simplement est préoccupante? J'ai envie de vous dire, toujours oui, parce que j'ai le sentiment quand même que ce second tour, eh bien, il y a un paquet de personnes qui veulent s'abstenir. Bon, eh bien, on va en parler tout à l'heure avec les sujets qui ont retenu notre attention. Dans une poignée de minutes, le maire de Crosne sera avec nous, monsieur Michael Diamati. Il sera là avec nous pour parler de cette mobilisation du second tour. Nous serons également avec Michel Taube avec le Quad 9. Les trois sujets qui ont retenu notre attention, la présidentielle, avec évidemment ce second tour qui s'annonce serré ou pas, le face-à-face entre Macron et Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'on dit? Que disent nos débatteurs influenceurs? Nous irons nous intéresser aussi avec l'abstention et puis ces électeurs qui sont perdus. Perdu parce que ce second tour, eh bien, bon, partagé entre l'abstentionnisme, partagé entre un vote, Marine Le Pen. On en parle. Valérie Pécresse, qui elle, manque pas de tacler, vous savez quoi, Nicolas Sarkozy. Nous en parlerons aussi. C'est la faute de Nicolas Sarkozy maintenant si on en est là. Si on en est là, elle surtout Valérie Pécresse. Eh bien, on en parlera. Véritable fiasco. Certains disent d'ailleurs, on parle de fiasco, c'est des personnalités de la droite qui évoquent ce sujet. Les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant, et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 10h, 11h, les informer avec Adil Farkan.
Et les informer tout de suite, l'invité du jour.
Les informer. L'interview.
Et l'interview, c'est avec le maire de Crosne, monsieur Michael Diamati. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour, j'espère que vous allez bien.
Très bien, et vous-même?
Bah écoutez, parfaitement, cette matinée ensoleillée, ça va bien.
Ça va bien. Monsieur le maire, vous êtes maire de la ville de Crosne. Dites-moi tout d'abord, comment vous sentez l'air en ce moment, ambiant, politique? Qu'est-ce que vous captez dans l'air, monsieur le maire?
Tout d'abord, la mobilisation a été quand même relativement importante sur la ville de Crosne dimanche dernier. Donc les électeurs se sont mobilisés un peu plus qu'au niveau national. On peut s'en satisfaire. Et ensuite, en termes d'ambiance, aujourd'hui, je pense qu'on digère les résultats, qu'on est en train de voir ce qui est en train de s'annoncer. Et entre nous, pour beaucoup de gens, les jeux sont déjà faits. En tout cas, c'est la perception que j'ai pour côtoyer un certain nombre de nos concitoyens. Ils se disent que voilà, Emmanuel Macron est déjà élu. Oui. Quelles vont être les proportions du résultat et quel va être réellement le pourcentage de chacun des candidats?
Donc, s'ils se posent la question, c'est qu'ils n'iront pas emprunter la voie de l'urne pour ce second tour, monsieur le maire, si je comprends ce que vous dites.
Alors, je ne suis pas certain de cette position, parce qu'encore une fois, je pense que d'ici l'élection, les messages vont être en ce sens, en disant rien n'est joué, il faut se mobiliser, il faut aller voter. Et j'ai envie de dire que le sursaut citoyen qu'on a pu voir lors du premier tour, il faut continuer et voir l'accroître pour le second tour. Donc non, rien n'est joué, mais c'est un petit peu le ressenti qu'on a. Voilà, vous me posez la question, c'est ce qu'on ressent, mais les choses ne sont pas jouées. Et encore une fois, dans une élection, il faut jamais prédire les résultats avant la fin de cette élection.
Hein, qu'est-ce, vraiment, oui. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le maire?
Certains s'en sont mordus les doigts en pensant que c'était déjà fait. On peut prendre comme exemple Valéry Giscard d'Estaing pour les plus anciens, mais voilà, une élection n'est jamais gagnée, donc il faut être prudent et mobilisé jusqu'au bout.
Dites-moi, quel est votre sentiment sur le second tour, le 24 avril prochain? On vote désormais, et puis une date, c'est celle à ne pas manquer, ce débat classique, traditionnel, qui se déroule mercredi prochain. Est-ce qu'on s'oriente vers un duel serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour ce second tour, monsieur le maire?
Forcément, il sera plus serré qu'en 2017, parce que vous avez vu que au niveau du vote des extrêmes, si on associe l'ensemble, ça représente un certain nombre d'électeurs. J'imagine que Marine Le Pen, c'est aussi mieux préparée, on l'a vu tout au long de cette campagne, où elle n'a pas été forcément mauvaise, ou en tout cas meilleure qu'en 2017. Donc, elle a dû bien se préparer par rapport au fiasco du premier débat. Donc, je pense que le score va être plus serré que la précédente élection. Mmh. Mais à mon avis, comme pour beaucoup de Français, Emmanuel Macron sera encore une fois le président de la République française.
Dites-moi, monsieur le maire, je vous pose cette question, puisque, évidemment, c'est ce qui se dit ici et là. Beaucoup, ceux qui ont voté, Jean-Luc Mélenchon, ont deux scénarios qui se proposent, qui s'offrent à eux. Le premier scénario, c'est l'abstention, et le deuxième scénario, c'est d'aller voter Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez et qu'est-ce que vous leur dites ?
Moi, j'ai envie de dire, et je salue la prise de position de Jean-Luc Mélenchon au soir des élections, qui a été on ne peut plus clair. Hein, il a répété à trois reprises qu'aucune voix ne devait aller à Marine Le Pen. Et moi, j'invite les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à aller se prononcer, parce qu'encore une fois, leur voix est importante. Et s'abstenir, ce n'est pas se prononcer. Donc même s'ils ne sont pas en accord, peut-être qu'un vote blanc pourrait aussi démontrer une certaine position. Mais encore une fois, il faut qu'on puisse aller se mobiliser et aller aux urnes le dimanche 24 avril.
Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui sont encore indécis et qui hésitent aujourd'hui, qui se disent les jeux sont faits et que inutile d'aller évidemment voter pour ce second tour. Vous leur dites quoi, vous, monsieur le maire ? Évidemment, cette élection est plus que jamais importante.
Alors évidemment qu'elle est importante et évidemment qu'il faut se mobiliser comme pour chacune des élections, parce qu'encore une fois, et je le répète assez régulièrement, les gens se sont battus pour qu'on puisse avoir ce droit de vote. Donc et on le voit dans certains pays et avec les événements qu'on connaît aujourd'hui, c'est un droit inaliénable et qui est quand même très important. Donc il faut absolument prendre quelques minutes et aller s'exprimer, ça c'est le premier point. Et puis surtout, j'imagine que les gens, comme beaucoup d'hommes politiques, ont déjà à l'esprit le troisième tour, c'est-à-dire les élections législatives qui vont se dérouler au mois de juin prochain.
Dites-moi, monsieur le maire, j'ai envie de vous soumettre évidemment ce qui se dit, c'est lui ou le chaos ? Alors, Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'est pas pris entre le choc de deux France qui s'affrontent ?
Alors c'était déjà le cas, puisqu'il a quand même eu un mandat qui n'a pas été simple, avec un certain nombre de mouvements, notamment populaires et sociaux. Donc cette difficulté ou les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, elles ne sont pas nouvelles. Donc il va falloir les gérer. Moi je pense que le président a quand même entendu un certain nombre de messages, et on le voit bien notamment sur la retraite ou sur des positions qu'il peut avoir. Donc de toute façon, ça sera le président de tous les Français. Donc s'il souhaite encore être président pour les 5 prochaines années, il devra faire des efforts et surtout écouter ce dont a besoin réellement le peuple.
Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez envie de dire enfin à celles et ceux qui vous écoutent partout en France et qui aujourd'hui s'interroge encore, et est-ce qu'il y a un message principal que vous avez envie de leur livrer ?
Oui, c'est d'aller voter, vraiment, dimanche 24 avril, allez voter, allez vous exprimer, toutes les voix sont importantes, vraiment. Et je pense à toutes les communautés, notamment étrangères, qui ont des membres de leur famille, que ce soit parents, grands-parents, ou même parfois eux-mêmes, certains de vos auditeurs, qui aimeraient peut-être aller voter, aller s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, tous les votes sont utiles, tous les votes sont importants, donc le message c'est dimanche 24 avril, allez voter.
Michael Damiati, merci monsieur le maire. Le maire merci de Crône, merci infiniment d'avoir été avec nous dans Les Informés.
Très bonne journée.
À bonne journée, à très bientôt, le face-à-face.
Les Informés, le face-à-face.
Le face-à-face est avec, je commence par les dames, Sabrina Sebaï, bonjour, qui est maire adjointe donc sur la ville d'Ivry. Comment ça va ?
Bonjour, ça va.
Oui, bien.
Oui, ça va.
À vos côtés, c'est Karim Elouache. Bonjour Karim.
Bonjour.
Comment ça va bien ?
Ça va bien, il fait beau.
Il fait très très beau,
il y a
effectivement.
Un week-end qui arrive.
Emmanuel Dupuis, le président de l'IPSE. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Comment ça va bien ?
Ça va très bien.
J'ai envie de faire un tour de table juste. Petite réaction. Qu'est-ce que vous captez en ce moment ? Quel est le climat ? Est-ce que vous le trouvez plutôt délétère ? Est-ce que c'est un climat qui vous inquiète, qui vous préoccupe, le climat politique, je parle ? Qu'est-ce que vous captez ici et là, Emmanuel ? Tiens, Dupuis, ensuite Sabrina Sebaï et Karim Alouache. Avant évidemment de rentrer dans le sujet, puisqu'on marquera la première pause.
Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude de la part des partisans d'Emmanuel Macron et de l'entourage d'Emmanuel Macron. Un petit peu moins du côté d'Emmanuel Macron, me dit-on. En tout cas, c'est ce que rapporte un certain nombre de journalistes. Il est sûr de son fait, il est sûr de sa victoire. Son entourage, beaucoup moins. Ensuite, beaucoup de tensions pour l'après-campagne. tout va être remis à niveau. Les deux partis majoritaires durant les 40 dernières années pèsent moins de 7% réunis. Donc il va y avoir un tsunami politique et au Parti socialiste et chez les Républicains. Et de facto, qui va rabattre les cartes des partenariats entre les Républicains et les centristes, entre les Verts et la gauche, puisque les Verts sortent un peu aussi éreintés, mais je laisse à cela, je laisse ma collègue en parler. Je sens aussi beaucoup de mobilisation chez les partisans de Marine Le Pen. Je faisais un débat ce matin sur BFM avec un des partisans de Marine Le Pen et qui me disait qu'ils étaient prêts et que cette fois-ci, on ne les reprendrait pas au niveau d'amateurisme qu'ils ont pu connaître en 2017. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup mieux préparée.
Ouais.
Et donc ça veut dire que le combat va être beaucoup plus dur. Et il ne faut pas partir du principe qu'il est gagné d'avance, et il ne faut surtout pas le jouer déjà gagnant, parce que ça, les Français n'aiment pas. N'aiment pas ce côté un petit peu imperturbable, de toute façon...
Et puis cette arrogance.
Un peu, j'osais pas exprimer le mot, mais c'est bien que vous le disiez, cher Adil, cette arrogance, effectivement, qui, je crois, est consubstantielle de la pensée, de la prise de parole, de la sémantique du président.
Sabrina, c'est Bailly.
Eh bien, moi, je dirais que du côté...
Cette arrogance que vivent beaucoup, c'est pour ça que je me suis permis de l'employer, qui est perçue par beaucoup.
Oui, ben ça, c'est Sabrina. Il a quand même gouverné 5 ans en total mépris des Français, comme s'il avait été élu grâce à un plébiscite, alors que ça a toujours été un rejet de Marine Le Pen, en fait, son élection, déjà en 2017, et ça sera sûrement le cas en 2022. Au niveau peut-être plus des gens que je côtoie, moi, il y a deux choses qui s'opposent. Il y a une forme de résignation, de vivre encore une fois ce second tour en se disant de toute façon c'est toujours la même chose, Emmanuel Macron va repasser. Et d'autre côté, une forme de révolte non, cette fois-ci en fait on va arrêter de faire barrage et il faut laisser passer les choses. Parce
le dégagisme.
Le dégagisme, on a jamais essayé Marine Le Pen, faut y aller cette fois. Et aussi une forme de révolte quand on voit l'occupation de la Sorbonne par exemple avec un déni total de ce second tour, en tout cas un refus de ce second tour tel qu'il est présenté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un peu tout ça qui s'oppose dans le pays avec, oui, effectivement, une fracture très forte sur ceux qui finalement se disent en fait, on a fait le barrage depuis maintenant plusieurs élections. En 2027, si c'est encore le même scénario, ce sera la 11e fois qu'on a un bulletin Le Pen au second tour d'une élection présidentielle. Et c'est vrai qu'on, pour certains d'entre nous, on en arrive à se dire, mais si finalement le Front National et maintenant Rassemblement National est si dangereux, raciste, xénophobe, tout ce qu'on lui attribue, pourquoi est-ce que ce parti n'a jamais été dissous? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait en sorte qu'il n'existe
pas? Allez, je marque la première pause et on se retrouve. Je vous redonne la parole, promis, pour en rentrer dans le sujet. Je vous demanderai aussi ce que vous captez, bien sûr, Karim Alouache. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan.
C'est avec Sabrina Sebaï, avec Karim Alouache, avec Emmanuel Dupuis, le 01-53-48-3000. Karim Alouache, qu'est-ce que vous captez, vous? Je vous pose la même question et ensuite, après, on rentre dans le sujet, évidemment, qui nous concerne.
Très clairement, il n'y a pas la même mobilisation qu'en 2017 et je pense que les Français en ont assez. Ils se sentent pris en otage, en fait. Ils en ont marre. Et le risque, il est réel parce qu'il y a des gens qui ont dit, c'est pipé, on n'y va pas. Alors, au mieux, je dis bien au mieux, ils n'iront pas voter. Au pire, ils sont capables d'aller mettre un bulletin Marine Le Pen dans l'urne parce que des attitudes, des stigmatisations, des ressentis équivalents au cours de ces 5 dernières années, ils sont capables de t'en sortir toute une liste. Et à un moment donné, on récolte ce que l'on sème tout simplement. La deuxième chose, c'est que Macron, je parle des quartiers, des banlieues, il avait pris un fort engagement. Il a fait son meeting de lancement de campagne à Bobigny. Et après, il n'a plus rien fait. Voire même, il y a eu toutes ces problématiques de gestion des investitures, des parachutages et autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on y est, quoi. Moi, je dis toujours, le Marine Le Pen au deuxième tour, quoi.
Ça veut dire quoi, on y est? Ça veut dire quoi? Non, mais concrètement, quand vous dites on y est, ça veut dire quoi?
On y est, c'est-à-dire que.
Est-ce que ça veut dire que.
C'est possible.
Ceux qui sont en colère aujourd'hui, ils le disent clairement, ouvertement. Je veux voter Marine Le Pen.
Non, mais Sabrina parlait de la Sorbonne. Mon fils est étudiant à la Sorbonne. Alors, il n'a pas bloqué la Sorbonne, lui. Mais il m'a envoyé une photo. Il a écrit ni Le Pen, ni Macron, ni Le Pen. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le front contre Marine Le Pen, il a du mal. Alors, moi, je suis pas inquiet. Je pense que Macron va passer. Mais il y a tellement dans ces élections de trahison, de je passe d'un camp à l'autre, de je me rallie. Franchement, on a l'impression d'avoir un jeu de poker ou de tarot. On n'est pas à l'abri d'un mauvais coup bas de quelqu'un ou d'un mouvement ou de certains. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe, ce qui se passe là dans le deuxième tour, c'est pas les présidentielles. Ce qui est en train de se jouer là, ce sont les législatives. Mmh. Et il y en a qui veulent exister aux législatives. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des affiches partout de Mélenchon en ce moment. Et le calcul est de dire qu'est-ce qui vaut mieux pour faire un gros score législatif, avoir Marine Le Pen quand on est Jean-Luc Mélenchon ou avoir Emmanuel Macron quand on est Jean-Luc Mélenchon. Alors, je suis peut-être parano, mais c'est quand même un raisonnement qui pourrait se tenir.
Alors justement, on va commencer par parler de ce premier sujet qui, bien sûr, nous interroge, nous. C'est ce second tour, un face-à-face extrêmement serré. Alors, même si vous nous dites, hein, effectivement, Macron l'emporterait dans ce duel extrêmement serré. Aujourd'hui, clairement, je vous pose la question, qu'est-ce que... Alors, on va pas s'appuyer essentiellement sur les sondages, mais qu'est-ce que vous répondez et qu'est-ce que vous dites? Quelle analyse apportez-vous, justement, sur ce second tour? On voit que Emmanuel Macron, par exemple, ajuste... Hein, évidemment, sa feuille de route, son projet, revoit notamment la réforme de retraite et puis un certain nombre de choses. Emmanuel Dupuy.
Vous avez vu le projet d'Emmanuel Macron alors? Moi, je ne l'ai pas vu. Vous dites qu'il a juste son
projet. Je l'ai écouté vous dites qu'il a à la défense.
Son... Vous dites qu'il a juste son projet. Le problème, c'est qu'il n'avait pas de projet. Donc, il a juste rien du tout. Il s'adapte au temps qui court. Et quand il s'agit d'interroger les Français sur le pouvoir d'achat, il va vers la pratique la plus populiste, c'est-à-dire de garantir que ce pouvoir d'achat sera au rendez-vous qui n'a pas été lors du premier mandat. Quand il s'agit de réfléchir sur les retraites, l'âge des retraites, il s'adapte au ressenti des Français et surtout...
Donc l'électorat populaire.
Au dialogue qu'il a avec ses Français. Donc je ne suis pas du tout certain que Emmanuel Macron s'adapte à la temporalité du deuxième tour. Je crois que Emmanuel Macron s'adapte déjà à la temporalité d'un deuxième mandat que je perçois comme étant particulièrement compliqué par une arrogance qui sera encore plus multipliée au deuxième mandat.
On a la certitude.
Je pense que s'il est élu, avec grande certitude, il s'émancipera encore plus des règles démocratiques qui sied à limiter le pouvoir du président. Il n'aura pas recours au corps constitué et il s'émancipera de tout dialogue social parce qu'il a le pouvoir et il aura le pouvoir absolu. Et il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas en pire ce qu'il a fait au premier mandat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter pour lui.
Et il n'aura plus d'échéance électorale à venir.
Et il aura la certitude d'avoir 5 ans où il aura les coups des franges. Donc il fera ce qu'il veut. Ce qui n'est pas pour rassurer.
Vous parlez, sauf s'il y a cohabitation.
Alors, c'est peut-être là où il y a l'enjeu et où est le véritable enjeu.
Non, mais de quelle cohabitation?
Premièrement.
S'il y a un raz-de-marée Mélenchon.
Il faudrait que Mélenchon ait la majorité à l'Assemblée nationale.
Oui, ça, c'est pas possible.
Et ça, c'est pas possible.
C'est pas possible. Il faudrait qu'à la rigueur, avec une dose proportionnelle, ce serait mieux. Oui. Mais avec le vote majoritaire, c'est pas possible. Il aura un nombre plus important de députés. Il en a, je crois, à peu près une trentaine.
17. Il en a 17.
Pas 30. 17. Mais il aura certainement pas. Pour avoir une majorité présidentielle, la précédente majorité de La République En Marche, c'était...
300 et des poussières.
340.
340.
Non, mais c'est impossible.
Donc
non,
il n'aura pas.
Littéralement impossible. Par contre, il est tout à fait possible qu'il y ait une majorité hétéroclite avec... alors, ce serait vraiment très, très compliqué, mais pas impossible. Une droite qui se réveille, ayant fait son deuil de la campagne calamiteuse de Valérie Pécresse, des centristes qui pèsent un petit peu plus... Et effectivement, une sorte de coalition dont tiendrait compte le président et qui ferait en sorte d'avoir un gouvernement d'union nationale. Néanmoins, on n'est pas tout à fait dans cette logique. Les derniers ressentis seraient plutôt d'avoir un gouvernement technique. Mmh. On parle beaucoup de Christine Lagarde qui viendrait comme Premier ministre et justement de critiquer toutes les...
On parle même d'Edouard Philippe ?
Non, on parle surtout de Christine Lagarde.
Non, Christine Lagarde plutôt qu'Edouard
Philippe.
Philippe,
c'est pas possible. Déjà été Premier ministre. Mmh. On ne redevient jamais Premier ministre.
C'est possible, non ?
Ça ne s'est jamais fait, en tout cas.
Dans non, ça ne s'est jamais... Mais moi...
Je termine juste une phrase. Parce que je crois que c'est vraiment...
Qui mettrait d'accord tout le monde, Christine Lagarde.
Alors, Christine Lagarde pourrait difficilement être critiquée par la droite dont elle est issue, par les macronistes qui l'auraient appelé à gouverner.
Au moins, elle est compétente, elle. Elle a des compétences.
Et qui a l'avantage d'offrir une garantie donc d'appui pour étayer cette nécessité de renforcer le pouvoir d'achat à travers le pacte de relance européen, les 800 milliards d'euros dont disposent les pays européens pour faire face à la crise de Covid.
Sabrina Sebaï. Sabrina Sebaï, ensuite Karim Alouache.
Non, ce que j'allais dire, le plus important,
oui.
On peut dire tout ce qu'on veut, le plus important, c'est le débat entre deux tours. On gagne ou on perd entre 1,5 et 2 points.
Exact. C'est vrai, c'est très juste. Et depuis des années, d'ailleurs.
Bah, moi, pour ceux qui pensent que Emmanuel Macron est déjà réélu, je pense que vraiment c'est une erreur. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup plus d'inquiétude parce que quand on se rappelle les scores du Front National,
les gens vouloir voter.
Quand on prend 2002, je crois qu'ils avaient fait 18%. Ensuite, ils avaient fait quelque chose comme 30 et des poussières. En 2017, c'était 45. Donc, on voit la progression tout le temps, en fait, qui est nette du Rassemblement National sur l'élection présidentielle, en tout cas dans le second tour. Et pour la première fois, il y a eu des sondages qui donnaient Marine Le Pen gagnante, ce qui n'était pas arrivé en tout cas avant dans les scénarios. Elle était toujours, il y avait toujours ce front républicain finalement qui se mettait en place et ce barrage. Donc moi je pense pas qu'il faille se dire que tout est déjà plié et que c'est fait. Moi je pense qu'en plus avec la candidature d'Éric Zemmour qui a permis de normaliser un peu le Front National finalement qui apparaît comme une candidature finalement de droite extrême mais pas d'extrême droite. Donc la nuance
même modérée.
Oui voilà donc
ouais,
en fait
modérée, par rapport à
Zemmour. Oui par rapport à Zemmour forcément. Mais oui mais dans l'esprit des gens quand on voit Zemmour qui tape toute la journée sur immigration, grand remplacement etc et que elle n'utilise pas ce vocabulaire et que dans son projet la première partie est complètement épurée de ces questions là il faut creuser un peu pour voir à quel point c'est islamophobe. Enfin vraiment on reste quand même dans le projet initial du Front National. Donc je pense vraiment moi c'est pour ça que je dis aux gens allez voter. Avec vraiment beaucoup de résignation pour le coup, parce qu'on sait très bien ce qui nous attend sur ce prochain quinquennat, ça a été dit. Moi, je pense que Macron attendait la 2022 pour lancer toutes les réformes de manière beaucoup plus violente et de manière beaucoup plus rapide sur le deuxième quinquennat qui va arriver et qui vont être une casse terrible au niveau de la fonction publique, une casse sociale qui va être assez terrible.
Je vous arrête parce que je dois lancer le quoi de neuf, sinon ça nous met en retard. Et ensuite, je retrouve votre parole, évidemment, Karim Alouache. C'est parti, le quoi de neuf.
Les informés, le quoi de neuf.
Et le quoi de neuf, c'est avec Michel Taube qui vient nous parler de son billet justement consacré à Marine Le Pen. On vous écoute.
Oui, bonsoir Adil et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Comment allez-vous mon cher Michel Taube?
Écoutez, comme votre invité qui vient de s'exprimer en disant je serais quand même assez inquiet et je pense que rien n'est gagné pour le deuxième tour et qu'on commence à... je pense être nombreux à se dire que Marine Le Pen, elle peut gagner, quoi. Elle peut gagner le dimanche 24 avril. Et que moi, j'en suis rendu, c'est l'édito que j'ai publié ce matin. J'ai imaginé qu'est-ce qui va se passer le jour d'après si Marine Le Pen est élue présidente de la République le 24 avril à 20h. Mmh. Et pour résumer, alors moi, je vous invite à lire ce scénario. Il y a un peu un scénario catastrophe, bien entendu. C'est que je pense qu'il y aura des conséquences très concrètes et très rapides. La première, et je pense qu'il faut en prendre conscience, c'est que sur le plan économique, ce serait très, très compliqué pour la France. Je pense que déjà, à très court terme, la bourse certainement dévisserait. La France serait considérablement fragilisée dans l'Union européenne. Et je pense que son économie, notre économie, en pâtirait, je pense, assez largement. Et la deuxième dimension que je vois arriver très, très rapidement, c'est que je pense qu'il y aura des réactions sociales très fortes. Il y aurait des réactions sociales dans les milieux étudiants, dans les milieux syndicaux, dans de nombreux corps constitués de la société. Et que nous aurions une sorte de troisième tour qui ne serait pas que les élections législatives, mais également un troisième tour social probablement assez violent vis-à-vis d'elle et de ceux qui la soutiendraient, et qui d'ailleurs à mon avis ne seraient pas très nombreux. Et donc voilà, je pense que c'est une chose de voter, mais c'est une chose de se poser la question, mais concrètement, qu'est-ce que ça va signifier pour notre pays si Marine Le Pen arrive au pouvoir de la cinquième puissance économique mondiale, au pouvoir d'un État qui détient l'arme nucléaire, au pouvoir d'un État qui a quand même une tradition, une histoire, les droits de l'homme et j'en passe.
C'est clair.
Donc je pense que plus on va se rapprocher du jour J, plus il est vraiment important que chaque citoyen se pose la question, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son pays. Et je pense qu'on commence à peine à entrer dans ce questionnement. Et je pense que bah je pense qu'il faut y aller quoi. Moi je ne suis on peut pas me soupçonner d'être pro Macron. Je suis souvent très critique sur ses choix économiques, politiques sous CETO, mais je pense qu'en même temps il faut savoir comment dire choisir des priorités, hiérarchiser les enjeux de valeur et en termes de valeurs fondamentales, bah voilà, il faut se demander concrètement. Qu'est-ce qui se passerait si demain on élisait Marine Le Pen à la présidence de la République ? Et je pense que c'est à l'aune de cette question que chacun de nos concitoyens doit décider d'aller voter ou non. Et j'aimerais juste ajouter un point, mon cher Adil, c'est que cette fois-ci, plus encore que les fois de précédentes, s'abstenir ou voter blanc, qui pourrait être la tentation de beaucoup de nos concitoyens, s'abstenir ou voter blanc, au final, c'est voter Marine Le Pen. Et je pense que c'est important que chacun en prenne la mesure très fortement.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur. Merci. Vous êtes le patron d'Opinion Internationale, éditorialiste sur les plateaux de télévision. Merci, Michel Taube.
Merci. À très bientôt.
À très bientôt. On marque vite une pause pub et on se retrouve pour notamment redonner la parole ou donner la parole à Karim Alouache. Et je poserai aussi notamment ce sujet, Emmanuel Macron. Pourquoi ce rejet ? Pourquoi on parle d'un rejet, d'un dégagisme ? J'aimerais qu'on pose le cadre et qu'on puisse comprendre. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, dernière ligne droite avec Sabrina Sebaï, avec Emmanuel Dupuis, mais également avec Karim Alouache. Karim Alouache, je vous écoute.
Bah, tout d'abord, dans ce second tour, il y a une chose qu'il faut regarder, c'est que si tous les candidats de gauche n'avaient pas eu des difficultés personnelles ou des égaux, la somme de la gauche était au deuxième tour. Et ça, c'était une certitude. Et je ne comprends pas qu'ils n'aient pas pu s'entendre, au lieu de que chacun soit candidat pour, en gros, être candidat et se retrouver. La deuxième chose, c'est qu'il y a des partis politiques aujourd'hui qui ont de gros soucis financiers. Et le seul moyen de renflouer les caisses pour un parti politique sont les législatives. Puisque une voix rapporte 1,42 euros par an, une voix. Donc là-dessus, ça va dealer. Si Macron gagne, je pense que ça va être très difficile pour lui, très très difficile pour lui, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, parce que LREM, quand on regarde les trois dernières élections locales, c'est le fiasco. C'est pas moyen, c'est la déroute totale. Et je pense que même en mettant la photo de Macron à côté du candidat, ça passera pas une deuxième fois. Moi, j'ai toujours dit que le coup qu'il a fait en 2007, c'est un one-shot.
Parlons-en justement. C'est quoi les raisons de ce rejet, ce dégagisme concernant Emmanuel Macron ?
La dernière difficulté, avant de parler de ça, c'est qu'en 2017, Macron, il n'avait pas de bilan à assumer. Même s'il était ministre de Hollande. Mais il n'avait pas de bilan. Là, il a un bilan à assumer. Ça change totalement la donne. Pourquoi et puis le dernier point, et beaucoup y pensent aussi, il n'a plus de contraintes. Ça va être un président sans filet. Il n'appartient pas à un parti politique, donc il n'aura pas derrière lui un parti politique qui va dire hey, « Écoute, calme-toi, parce que nous, après, pour les élections suivantes, bah, lui s'en fiche. Et quand on voit le travail de destruction des institutions, parce que c'est ça la réalité, hein, on l'a vu avec avec les Gilets jaunes, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais c'est la destruction des syndicats. Qu'est-ce qu'ils ont montré ? On n'est pas représenté par les syndicats, on est représenté par le peuple. Les partis politiques, c'est la même chose, ils sont tous par terre. Donc on a un président d'un côté et le peuple de l'autre côté.
Un tour de table sur les raisons de ce rejet, de ce dégagisme en direction d'Emmanuel Macron. Emmanuel Dupuis et ensuite Sabrina Sebaï.
C'est sans doute parce que son bilan est critiquable, justement. Il n'a pas été suffisamment critiqué, mais je crois qu'il est fortement à côté d'un certain nombre de réalités que vivent les Français. Ou du moins, il correspond à ce que vivent une infime minorité des Français. Ça, ce président des super riches, ce président qui n'a cessé de faire que des cadeaux fiscaux, vous pourriez croire que j'ai une sémantique mélenchonienne, mais je crois que c'est partagé par tout le monde. Ce président a été un président, finalement, qui n'a fait que cliver et qui n'a fait que créer des communautés qui, parfois, sont devenues, pendant 5 ans, de moins en moins conciliables. Et ça, je crois que c'est ce qu'on pourrait lui reprocher le plus. Donc, pourquoi il y a cette forme de Macronphobie ? Parce que Macron n'est certainement pas, et on le voit quand il s'adresse à des citoyens qui l'alpaguent littéralement pour lui poser un certain nombre de questions, on voit qu'il est parfois méprisant, qu'il est parfois redondant, ou en tout cas qu'il n'est pas du tout dans l'écoute. Et je crois que ce qu'on peut vraiment pas dire par rapport à cette ce quinquennat, c'est que ça n'a pas été un quinquennat d'écoute. Ça a été un quinquennat du fait accompli. Ça a été un quinquennat qui a mis de côté la légitimité parlementaire, qui a totalement effacé le contrat social. Mmh. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, on peut ne pas être d'accord avec les personnes avec qui on négocie, mais on négocie d'avant. Et on ne dit pas juste que c'est une loi qui s'impose.
On avance. Donc
ce sont quelques éléments qu'on peut reprocher à Emmanuel.
Sabrina Sebaï, je voudrais qu'on parle de Valérie Pécresse après. Sabrina.
Le président du mépris, 5 ans de mépris vis-à-vis des Français et des Françaises, des élus locaux aussi, dont il n'a pas tenu compte. Il a continué en fait la question des moyens alloués aux collectivités, puisqu'il a eu de cesse de les amoindrir dans leur responsabilité en termes de collectivités. Le mépris vis-à-vis aussi des corps constitués, les syndicats, tout ce qui a eu lieu sur ce quinquennat. Et vraiment, pour moi, et le mépris de la fonction publique. C'est un président qui a gouverné à coup de cabinets de consultants. Il a géré la crise avec des cabinets. Il a fait sa campagne avec des cabinets. Enfin voilà, c'est le président du mépris. Pour moi,
si je
peux me permettre, il y a d'abord la personnalité qui donne un sentiment de mépris. La deuxième chose, c'est l'habillage. C'est quelqu'un de. Ça a été un gouvernement de communication, mais les actes ne suivent jamais. C'est quelqu'un qui dit je vais consulter, mais qui vous explique comment il a fait, comment il fait la réforme derrière. Donc, c'est du vent en fait. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont de l'enfumage et du vent. Et quand tu vois comment les personnes ont été sélectionnées, je te confirme, pour avoir été à l'intérieur, elles n'ont pas été tirées au sort. Moi, je crois que la plus grande faiblesse de ce quinquennat, c'est son entourage, c'est ceux qui l'ont accompagné, c'est ce mouvement LREM qu'il n'a pas du tout géré parce qu'il n'a pas voulu le gérer, et moi j'ai bien ressenti, il y avait Macron d'un côté et LREM de l'autre, et surtout une sacrée tripotée de ministres qui n'avaient rien à faire ici, qui ont passé un temps fou sur des choses, je dirais, clivantes. Hein, on va pas refaire toute l'histoire de Schiappa et consorts, mais du coup, on l'a vu ressortir. On l'a vu violemment ressortir dans les quartiers.
Avant de rendre l'antenne, j'aimerais quand même qu'on parle de Valérie Pécresse et ce fiasco. Elle met tout sur le dos de Sarkozy. Est-ce que c'est pas un peu trop facile? Avec, évidemment, elle en a fait des maladresses. Moi, j'ai eu quelques indiscrétions, mais quand même, est-ce que c'est pas un peu facile, Emmanuel?
Oui,
Dupuis.
Alors, écoutez.
Ouais.
Vous ciblez juste, hein, il se trouve que mon parti politique, les centristes, faisions campagne, et je crois qu'on a fait campagne avec dignité pendant cette présidentielle. Effectivement, il est un peu...
T'as dit que c'est la faute de Sarko.
Voilà, tout est un petit peu facile et un peu cavalier, hein, de dire que Nicolas Sarkozy est responsable, d'autant que Nicolas Sarkozy ne s'est pas exprimé du tout. Donc c'est un petit peu compliqué de dire qu'il est responsable de quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais enfin, peu importe. En tout cas, ce qui est une certitude, c'est que les Républicains sortent exsangues de cette campagne, moins de 5%, un remboursement de 8 millions d'euros à assumer, un endettement personnel, je n'en disconviens pas, de 5 millions d'euros pour la candidate. Mais je crois que ce qui est beaucoup plus important, c'est le fait que, quoi qu'on l'en dise, dans un pays d'Europe occidentale, quand des partis politiques qui représentent quand même une réalité politique, on est dans une logique contradictoire. On a un parti, les Républicains, qui pèse 4,6% à l'élection présidentielle parce que la candidate n'était pas forcément la mieux à même de porter cette vision politique, alors que, comme l'a dit Karim Alouache, la droite républicaine a gagné les sénatoriales, les départementales, les municipales, les régionales. Et donc, à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on peut en vouloir aussi Emmanuel Macron, c'est que toutes les promesses qu'il avait faites, donc d'aération démocratique, la proportionnelle en est une,
par exemple,
la décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation, ce ne sont que des mots. Il ne s'est payé de mots. Nous l'avons cru, enfin, nous n'avons pas eu le choix que de penser qu'il allait le faire, il ne l'a pas fait. Et c'est ça qu'on peut lui reprocher. À un moment ou à un autre, il est lui-même dans une logique un peu populiste, si vous m'autorisez d'aller jusqu'à cet extrême, en voulant gouverner par lui-même, pour et par lui-même. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est impardonnable.
Sabrina Sebaï.
Oui, je pense que c'est un peu facile de dire que c'est Nicolas Sarkozy qui est responsable de son échec. Je pense que ça vient d'un peu plus loin que ça, parce que si on regarde les deux partis traditionnels qui ont gouverné alternativement sous la Ve République globalement, le PS qui s'est effondré en 2017... Et aujourd'hui les Républicains, mais il y a Macron qui est totalement responsable puisqu'il a fait effet aspirateur en 2017. Il sortait du gouvernement Hollande, il a aspiré toute une partie du PS, il les a mis au sol. Et là, en 2022, il fait la même chose. Dans les propositions qu'il fait sur son projet, même s'il n'avait pas de projet, et je pense qu'il n'a pas de colonne vertébrale politique, mais en tout cas dans les propositions qu'il fait, c'est des propositions qui sont tout à fait cohérentes avec les LR. Et je pense que les gens qui auraient voulu ou pu logiquement voter pour Valérie Pécresse ont préféré voter directement pour Emmanuel Macron, sous un levier aussi de vote utile, comme ça a été le cas pour Mélenchon à cette présidentielle de 2022. Donc en fait, ce score représente assez bien finalement la destruction, en tout cas, de ce que représentaient ces deux partis traditionnels qui ont aussi beaucoup trahi les électeurs, je pense, au bout d'un moment. Ça se ressent aussi, moi je me rappelle du mandat Hollande, il a fait beaucoup de mal à la gauche, hein, quand on commence avec le droit de vote des étrangers, qu'on termine le quinquennat avec la déchéance de nationalité, je pense que ça laisse des traces aussi chez l'électorat de gauche.
Ce qui est extraordinaire, c'est que les partis traditionnels se font toujours tacler sur des doctrines d'extrême droite en réalité. Moi, je suis d'accord avec toi. La déchéance d'Hollande et du PS, c'est la déchéance de la nationalité, qui était quelque chose de fou. À l'époque, j'étais élu d'opposition dans une ville de gauche, et j'ai halluciné parce que moi, je me souviens avoir fait un vœu pour dénoncer ça. Une ville de gauche, hein, donc une majorité municipale de gauche. Et les gens ont tous voté contre mon vœu. J'aurais dit, mais c'est fou. À l'époque, quand même, j'avais signalé que les deux seules déchéances de nationalité qui avaient existé auparavant, c'était sous Vichy, c'est-à-dire De Gaulle d'abord, et puis ensuite les Juifs. Mais bon, passons. La deuxième chose, clairement, il y a une vraie mise en œuvre de destruction des institutions. Et la conséquence de ça, c'est que ça fait monter les extrêmes. Toujours. Puisqu'il n'y a plus de, il y a plus de repères. En ce qui concerne Valérie Pécresse. Alors, moi, j'ai une amie qui était porte-parole de Valérie Pécresse et qui, parce qu'on a le droit d'avoir des amis un peu partout. Et je lui ai dit, dès le début, vous allez dans un mur, vous faites une campagne de vieux, et en plus, on ne voit pas les bonnes personnes.
Exact.
On a des partenaires, il faut les montrer. On a des porte-paroles, il faut les montrer. En fait, cette campagne, elle a mis en évidence une chose. Il faut changer toute la classe politique, parce qu'il n'y a que des vieux, d'abord. Alors, quand je dis vieux, attention, je dis des gens qui pratiquent la politique depuis longtemps. On peut démarrer en politique à 50 ans et être un jeune politicien. Mais en fait, ils ont tous des égos surdimensionnés, voire même ils y vont pour être remarqués et espérer quelque chose derrière. Non, Sarkozy n'est pas... Vous savez, ce qui a tué les partis politiques, ce sont les primaires. C'est la plus grosse connerie d'avoir mis en place des primaires. Parce que les primaires, ça n'existe pas. Que les partis politiques règlent entre eux et qu'ils sortent un candidat, ça a l'avantage que d'abord... Ben on fait sa tambouille dans son coin et pas aux yeux de tous. Et une primaire où on fait voter des gens qui ne sont pas des militants, ça n'a aucune valeur.
Les trois candidats qui arrivent en tête de cette élection n'ont pas fait de primaire.
Non mais c'est débile. C'est débile. On dit...
Faire remarquer.
Bien sûr, parce que si tu n'as pas de légitimité dans ton propre mouvement politique, comment tu peux avoir une légitimité à gouverner le pays?
Allez, on arrive au terme. Je voudrais juste...
Non mais moi je suis complètement...
Emmanuel Dupuy.
Je suis d'accord avec ce qu'a dit Karim et Sabrina. Je crois qu'il y a aussi une lassitude de la part des Français à qui on fait trop voter. Hein, les primaires pour ceux qui sont militants, il y a quand même une alternance d'élections qui arrive par saccade, par cascade, alors que théoriquement, dans toutes les démocraties occidentales, on regroupe les votes pour ne pas lasser le candidat et pour surtout montrer la cohérence qu'il existe entre le territoire, entre le citoyen, le représentant au niveau local et la politique qui est menée au niveau régional, national et européen.
Et ça éviterait les négociations de partis.
Mais ça éviterait aussi l'abstention.
Parce que là on est dans les législatives.
Si vous regroupez toutes les élections, si vous regroupez toutes les élections comme ça, c'est fait d'une seule traite, c'est beaucoup plus mobilisateur.
Ouais,
et je crois que je suis d'accord avec Karim, il faut revisiter, ripolliner la totalité des partis. Mais attention, c'est pas l'âge du capitaine qui est important, c'est les idées.
Non, merci. On est d'accord.
Merci à Karim Alouache. Merci à Sabrina Sebaï.
Merci.
Merci à Emmanuel Dupuy.
Merci
à vous, à la réalisation absolument. C'était Yanis. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien.
Merci
et on se retrouve lundi à 10h. Ciao, ciao. On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.